Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
J'aimerais que nous ouvrions notre Bible dans l'Ancien Testament, pour commencer. Je vous propose une lecture dans le livre de l'Exode, deuxième livre de notre Bible. Chapitre 1er, verset 8, pour commencer. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. » C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithon et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en adversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shriphra et l'autre Pua. Et il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne firent point ce qui leur avait été dit ou ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Voilà, c'est terrible. Hein ? Pourtant, c'est dans la Bible. Deuxième lecture, si vous voulez bien, ce sera beaucoup plus court. Nous allons lire dans Galates, Épître aux Galates, chapitre 5. Et nous allons comprendre la signification de notre première lecture à travers simplement ce verset. C'est pour la liberté, Galates 5, 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers cette parole que nous ouvrons ce matin avec un caractère un petit peu particulier pour nous rappeler notre véritable état d'homme et de femme libre. Vous le savez aussi bien que moi, notre affranchissement est associé étroitement à notre salut et à notre vie nouvelle en Christ. À partir du moment où un homme accepte Jésus-Christ dans sa vie, eh bien, il devient un homme libre. Alors, extérieurement, ça ne lui donne pas un sens particulier à cette liberté, mais intérieurement, oui, toute la différence se trouve finalement eh bien, au fond de notre cœur, de notre âme. Et naturellement, j'ajoute, mais c'est superflu de le dire, mais je le dis quand même, l'affranchissement suppose un état initial de servitude ou d'esclavage. On est esclave et on devient libre. Et dans l'histoire, il y a eu des grands moments très forts, où, eh bien là, des grandes victoires ont été prises dans l'humanité. On peut dire des victoires des abolitionnistes sur les esclavagistes. Et vous savez que notre pays a été particulièrement marqué parce qu'il y a eu toutes sortes de nations qui ont pratiqué ce genre de choses. Hein, que ce soit les Hollandais, les Portugais, les Espagnols, les Français, les Anglais, etc., etc. C'était véritablement des nations, dans une certaine époque, esclavagistes. Et des villes, et vous vous souvenez certainement que des villes comme Bordeaux ou des villes comme Nantes ont eu toute leur prospérité à travers le trafic d'ébène noire, enfin si on peut dire comme ça. Alors toujours est-il que, en ce qui nous concerne, notre esclavage à nous, eh bien se caractérisait par l'ignorance, ou plutôt l'inconscience de notre condition. Nous ne savions pas que nous étions des esclaves. Imaginez-vous. Et c'est parce qu'il y a eu naturellement cet éclairage sur nos vies, la parole de Dieu est venue nous montrer notre condition et notre état, que nous avons pris conscience. Et nous chantons des cantiques du genre « Je suis sauvé car Jésus a pardonné mes péchés », etc. Enfin bon, toutes sortes de chants comme ça que nous proclamons. Oh là, nous proclamons véritablement qu'il y a eu un avant et un après dans notre vie. Et je vous dirais que rien de mieux de faire croire à un esclave que son état est normal. Et peut-être, si nous nous souvenons avant de nous convertir, eh bien nous pensions que notre vie était normale. Et nous l'aurions défendu en disant « Mais moi je suis un homme libre, je suis vraiment en liberté, c'est vrai que extérieurement nous avons droit à une carte d'identité, un passeport, nous pouvons aller d'un pays à un autre, ce qui n'est pas donné à tous les peuples, hein. C'est pas mal quand même, hein, nos pays occidentaux. Mais toujours est-il que nous pouvons revendiquer cette liberté, mais où Jésus nous dit que l'homme n'est pas libre, c'est sur un autre plan, dans une autre dimension. » Et peut-être que pendant des années, nous avons vécu en disant « bien, je suis libre ». Et c'est vrai que pendant des siècles et des siècles, les nations esclavagistes ont fait croire à ceux qu'ils avaient dominés, ceux qu'ils dominaient et ceux dont ils se servaient, eh bien que leur état était normal parce qu'en raison de leur religion ou de couleur de peau, eh bien c'était normal qu'ils soient des esclaves, tout simplement. Tout cela pour les maintenir dans la servitude et disposer de ces gens. Et vous savez que il est assez étonnant que quelquefois, c'est peut-être dans les milieux religieux que les gens sont les plus esclaves. Eh oui, ça c'est curieux quand même, hein, vous allez peut-être être choqués de ce que je vais dire. Mais je prends par exemple cette intervention des Juifs du temps de Jésus. Et ça vous le retrouvez, vous retrouverez l'référence dans Jean chapitre 8, hein, à partir du verset 38, où il est dit ceci, ce sont les Juifs qui viennent voir, et des Juifs religieux, hein, des pharisiens, des scribes, des docteurs de la loi, ils viennent voir Jésus et lui disent ceci, « Nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. » Alors ça, c'est véritablement un aveuglement caractérisé parce que ces gens, ces Juifs du temps de Jésus, qui plus est religieux, eh bien, voulaient véritablement se fermer, se boucher les yeux sur la réalité parce qu'ils étaient déjà sous la botte de l'Empire romain, d'une. Et puis, ils auraient dû se souvenir que dans leur histoire, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Ils avaient connu l'Égypte pendant de nombreux siècles. Ils avaient connu la déportation en Assyrie. Ils avaient connu la déportation à Babylone. Et tout le temps de leur, où ils ont été une nation, eh bien, c'était une nation qui était souvent, eh bien, là dans l'esclavage ou dans la domination de d'autres, tels que les Philistins, les Syriens, etc., etc. Alors, quelquefois, on peut proclamer les choses. Je vois clair, je suis libre, tout en ayant des chaînes aux pieds et aux mains. Or, c'est la parole de Dieu qui nous a ouvert les yeux. Et vous savez, le but de l'évangélisation reste encore constant aujourd'hui. Faisons des réunions d'évangélisation. Parce que le monde a besoin d'avoir certainement les yeux ouverts. Et Jésus dira justement dans cette même pensée, il dira « Mais vous connaîtrez la vérité. » Et la vérité vous affranchira. Donc on est bien d'accord, c'est la vérité en Christ. La vérité biblique, la vérité évangélique qui ouvre les yeux des hommes et la vérité vous affranchira. Et ce n'est pas pour rien que Jésus dira un petit peu plus loin dans l'évangile de Jean, ma parole est la vérité. Donc c'est avec cette vérité-là que nous sommes devenus des hommes libres les uns et les autres. Alors l'esclavage, qu'est-ce que ça veut dire? Sur le plan historique, l'Antiquité a compté des millions d'esclaves. C'était certainement pas à la gloire de l'homme. Les dominants et les dominés. Et pour des raisons souvent économiques, hein, toujours. Par fait de guerre ou de fait de piraterie. Alors on prenait comme cela. On allait dans un pays et puis on emmenait des déportés. Remarquez, c'est pas si vieux que ça, hein, parce que il y a pas plus de 60 ans, qu'est-ce qu'on a fait avec STO, non? Peut-être, on envoyait des gens travailler en Allemagne pour l'effort de guerre, etc., etc. Et puis, on les concentrait dans des camps appelé concentration, naturellement. Donc, l'esclavage est toujours présent, hein, et sans compter qu'aujourd'hui, il reste encore certainement de beaux restes de l'esclavage à travers l'exploitation, la prostitution, le proxénétisme, etc., si ce n'est le travail des enfants. Enfin, bon, je ne suis pas là en train de faire de la politique, mais toujours est-il que le monde a connu des millions d'esclaves dans son histoire, et étonnamment, ce sont des sociétés civilisées de tous les temps qui ont été les exploiteurs. Et ça, c'est terrible. L'esclave, disons quelques mots, était un homme sans droit. Son maître pouvait, à sa guise, le vendre, l'utiliser, le tuer. Et ce maître-là avait droit de vie et de mort absolue. À partir du moment où il décrétait quelque chose, eh bien, c'était terminé. L'esclave était tout simplement corvéable, hein, et à merci. Donc, on voit que toute notre histoire est une histoire chargée, hein, et avec tant de choses affreuses. Hein. Je crois que l'Afrique a payé un très très lourd tribut. Quand on connaît les conditions, dans la manière dont on déportait qu'on faisait traverser l'Atlantique, ce qu'on a appelé le commerce triangulaire, hein, avec des gens qui étaient par milliers entassés dans des bateaux, et donc il y avait peut-être la moitié ou un quart qui arrivait vivant. C'est terrible, hein. Une femme était vendue plus cher qu'un homme, parce qu'elle avait, naturellement, de par sa féminité, le pouvoir de procréer. Donc c'était un gain pour le maître. Et pourtant, on a lu dans notre texte, et on a lu, et ça existe depuis 2000 ans, depuis que Jésus a donné cette pensée d'affranchissement, depuis que l'apôtre Paul a proclamé ce slogan « Christ nous a affranchis ». Ça, c'est une belle parole, c'est extraordinaire. Mais maintenant, savoir de quoi, et puis pourquoi et comment. D'abord, en ce qui nous concerne, si nous revenons sur le niveau spirituel, hein, niveau donc de la foi, nous avons été esclaves de la puissance, nous révèle la Bible, des ténèbres qui régissent le monde et à la tête duquel existe un maître, un prince, qui est certes déchu, que l'on appelle le diable, maître invisible, puissant et dominateur. Et son moyen d'action a commencé dans le jardin d'Éden. À travers des suggestions, à travers des paroles de doute, eh bien, mettant en cause finalement, eh bien, notre véritable qualité de fils, d'enfant de Dieu et d'homme libre. Dieu aurait-il réellement dit ? Et voilà que la relation de confiance et d'amour entre le Créateur et la créature en prend un coup. Elle est brisée d'ailleurs. L'Écriture, et c'est pour cela que nous avons fait notre lecture tout à l'heure, nous offre un exemple historique de la servitude des Hébreux en Égypte. Vous avez lu avec moi. À un moment donné, ça s'est bien passé. Mais le peuple hébreu est devenu très très nombreux, et les Égyptiens ont commencé à penser que la démographie, finalement, eh bien, allait basculer, que les Hébreux allaient devenir plus nombreux que les Égyptiens. Et cet empire d'Égypte typifie tout simplement le monde tel qu'il est. Et puis Pharaon, naturellement, le maître tyrannique et despote, qui est assoiffé de pouvoir. Et je pense que ça, c'est un état d'esprit. De dominer, de dire, eh bien voilà, je me fais une place au soleil, mais au détriment des autres, naturellement. Et c'était véritablement la caractéristique de l'Égypte ancienne. La condition des Hébreux était un travail harassant, incessant. C'est eux qui ont creusé les grands canaux, qui ont donné tant de prospérité à ce pays, l'Égypte. C'est eux qui ont construit aussi les pyramides. Il n'y avait pas que le peuple hébreu, hein, qui avait été asservi, il y en avait d'autres peuples. Mais toujours est-il que c'était un peuple qui se caractérisait par une profonde misère, à travers toutes sortes d'humiliations, et c'était le corps et l'âme qui étaient opprimés. Et c'est vrai qu'on a une belle histoire dans la Bible, la manière dont Dieu va envoyer un homme providentiel, Moïse, pour les faire sortir. Et c'est l'histoire donc de la capitulation de l'Égypte, première puissance au monde à l'époque, et puis la traversée de la mer Rouge avec tout cet apprentissage pour les apprendre pendant une quarantaine d'années, eh bien, à rentrer dans un pays de liberté, c'est-à-dire le pays de Canaan. Selon le plan divin, un homme est venu. Il est venu en Égypte avant, naturellement, Moïse, hein, il s'appelait Joseph. Et il est venu pour secourir et sauver sa famille de la famine. Et vous connaissez l'histoire, c'est pas lui qui avait choisi, on l'a envoyé. C'était en quelque sorte le prototype de la déportation. Et puis, mais il avait été vendu, non pas par ses ennemis, mais il avait été vendu par ses propres frères. Et il s'y est installé, il a prospéré dans ce pays d'Égypte. Et alors, avec le temps passant, et vous savez que ça durait 430 ans, 4 siècles et demi presque, les Hébreux sont tombés progressivement, peu à peu, dans l'esclavage. Et ils sont devenus des sous-hommes. Et c'est l'histoire au figuré, finalement, de tous les hommes, si on veut bien faire se prêter à cette comparaison, qui, sans le savoir, à cause d'un phénomène que l'on appelle le péché que la Bible dénonce, se retrouve asservi en captivité. Et c'est pour ça que Jésus dira toujours dans l'évangile de Jean que celui qui se livre au péché devient esclave du péché, d'une manière progressive, d'une façon qui est subtile, d'une manière qui est souvent très cachée, et là on se retrouve prisonnier. Et il y a quelque chose qui va dominer sur nous, quelque chose dont nous savons la réalité, que nous voulons ou non, finalement, eh bien, parce que nous tolérons, et qui fait que, eh bien, à ce moment-là, nous devenons quelque part esclaves, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus nous en passer à un moment donné. Et cette parole revient à nos oreilles ce matin. Or, Christ vous a affranchi. Pour nous dire que notre ancien maître, auquel nous avions fait allégeance, nous a réduit à un esclavage total, sur le plan physique, lié par des passions et des convoitises. Ça, nous le savons tous. Ce qu'on pourrait appeler la dictature des sens. Sur le plan moral, lié par le conformisme ambiant, le matérialisme, où souvent ce n'est plus l'homme qui possède, mais qui est, contrairement, possédé à ce qu'il croit dominer et avoir. Ça, c'est véritablement, eh bien, notre société moderne d'aujourd'hui, où on s'aperçoit que les gens, s'ils n'ont pas ceci, s'ils n'ont pas cela, ils ne peuvent plus vivre. À travers des choses qui sont indifférentes peut-être, mais avec des choses qui sont graves aussi. On le voit, et je ne suis pas là pour faire un réquisitoire contre certaines choses, mais bon, en tous les cas, elles sont dénoncées comme étant profondément mauvaises. Je pense au tabac, je pense à l'alcool, ou je pense à bien d'autres choses. Qui fait que l'homme, quelque part, eh bien, devient dominé par ce qu'il croyait pouvoir finalement maîtriser et qui va rentrer dans sa vie et qui va faire que c'est pas possible. On est bien placé pour savoir comment ça se passe, hein, parce que nous recevons fréquemment des gens qui souffrent, des gens qui sont en voie de destruction, des gens qui sont atteints de certaines maladies conséquemment à une domination dans leur vie, toutes sortes de choses. Et puis sur le plan spirituel, nous voyons que le monde aussi est lié à toutes sortes de conceptions, mais alors au niveau de la pensée et de l'intelligence, des philosophies, des idéologies politiques soient-elles, ou religieuses, hein, peu importe, des erreurs humaines, trompées dans sa conscience et dans son esprit, où la vérité est voilée, et qui font que les gens deviennent des esclaves. Vous savez, si on prend des cas excessifs ou des cas extrêmes, certaines idéologies politiques sont de véritables esclavages. En promettant la liberté, eh bien, finalement, ils se retrouvent esclaves d'un système. Ça, c'est quelque chose, c'est terrible. Alors voilà pourquoi Christ est notre libérateur. Au-delà de tout cela, j'ai fait un petit peu un échantillonnage et puis j'ai tressé un tableau de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'humanité, de ce qu'est l'homme. Et pourtant, j'entends cette parole qui revient continuellement et elle est pour nous ce matin, parce qu'on va aller plus loin. Christ nous a affranchis, Christ m'a affranchi. Et ça, c'est un bonheur. Vous savez, si nous chantons des cantiques, et nous les chantons quand même, somme toute, avec enthousiasme ce matin, hein, vous êtes d'accord ? Hein, on n'est pas là en marmonnée du bout des lèvres en disant « Christ m'a affranchi » ou ceci. Non, on proclame que Christ nous a affranchi. Alors donc, il y a une réalité. Et cette réalité, elle est tellement importante qu'il faut que nous en prenions tous les jours conscience et que nous sachions garder ce privilège qui nous a été donné. C'est le prophète Zacharie, un prophète de l'ancien Israël, qui dit ceci « Dieu nous a suscité un puissant sauveur ». Et qui dit sauveur dit salut, qui dit péril naturellement quand il y a un sauveur quelque part. Un sauveur qui nous les a libérés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Voilà ce que l'Écriture proclame. L'homme, dans son aveuglement, s'est donné ou s'est choisi de faux amis. Je les appelle comme ça. Parce que ça commence toujours avec des affinités ou des amitiés. Et qui se révèlent, eh bien, quelque part, être des amis mortels. Et tout le monde conduit tout le monde, l'esprit du monde, l'état d'esprit, la mentalité nous conduit à certaines choses. C'est pourquoi je dis que l'homme, le chrétien, est un homme nouveau, Et il a besoin véritablement de revenir à ses racines, de revenir à ses sources de son affranchissement pour se souvenir que nous avons été libérés à un grand prix et que nous ne pouvons pas jouer notre liberté comme ça. Vous savez, nos églises seraient 10 fois, 20 fois plus pleines si tout le monde avait pris conscience. Au moment où l'homme s'est converti, repenti et est devenu un être nouveau, une nouvelle créature, eh bien, s'il avait pris conscience de cela, il ne serait certainement pas retourné en arrière. C'est ce qu'on appelle des rétrogrades. Et un rétrograde, vous savez ce que c'est qu'en conduite automobile, rétrograder, c'est revenir un petit peu à une vitesse inférieure. Alors, on comprend qu'il y a des faux amis dans la vie, des faux amis dans le monde, et ils se révèlent, eh bien, là, destructeurs. Et c'est Jésus qui déclare cette parole à un moment dans qu'il proclame ceci. Il dira pour lui-même, empruntant une prédiction ancienne du prophète Ésaïe, il dira « Mais l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. » Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin. Est-ce que vous faites vôtre cette parole ? Ou est-ce qu'il subsiste encore quelques Jérichos cachés, quelques murailles, quelques montagnes inaccessibles ? Et lorsque vous les regardez, eh bien, ça vous décourage en disant « Mais je n'y arriverai jamais ». Et pourtant, il nous est dit qu'il est venu pour apporter la délivrance, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et cette proclamation de l'Évangile, qui retentit encore ce matin hors réunion d'évangélisation, puisque nous sommes dans un culte, est là pour nous parler que c'est encore possible. Et quelquefois, je suis assez étonné de voir des frères et des sœurs qui ont des années de conversion, et qui ploient encore sous des faux amis, qui ploient encore sous, eh bien là, des maîtres tyranniques, tels que des réactions de peur, de crainte, d'angoisse, puisque la foi est là pour nous dire que, eh bien, tout est possible. La foi est là pour nous dire que, véritablement, nous pouvons être libres en Jésus-Christ. Combien de gens sont encore en de gens, je pense, d'enfants de Dieu, sont encore en train de plier devant des réactions qui sont des réactions tellement de timidité ou timorées que, eh bien, il leur manque une dimension d'épanouissement. Moi, Dieu m'a mis à cœur de vous dire que vous êtes libres, frères et sœurs. Que ce matin, vous pouvez saisir la liberté si vous en avez besoin. On n'est pas libre quand on est malade et on a besoin de la guérison qui vient du Seigneur. Et Dieu soit béni, il est encore capable de guérir, même par le miracle encore aujourd'hui. Le surnaturel. On n'est pas libre quand on a au fond de son cœur toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses qui sont là à nous tirailler, qui sont là à nous déchirer à l'intérieur, qui nous martèlent et qui font que bien nous marchons dans la tristesse, nous ne pouvons pas chanter un cantique, nous ne pouvons pas nous unir avec les autres pour dire « Mais Seigneur, tu es merveilleux !» Parce que Christ nous a affranchis et il veut que vous le sachiez. Vous êtes des hommes et des femmes libres. Vous savez, en 1862, quand il y a eu cette terrible guerre de sécession aux États-Unis, il y avait des émissaires, les Yankees, vous savez, ceux du Nord, qui étaient abolitionnistes, sont venus passer dans les grandes propriétés des producteurs de coton dans le sud des États-Unis, et ils proclamaient, avant que la guerre éclate, ils disaient aux esclaves, eh bien maintenant vous allez avoir la liberté, vous allez être libres, et après la guerre aussi, en disant maintenant vous êtes libres parce qu'il y a un édit, un traité qui a été signé, vous êtes des hommes à part entière, comme au même titre que les Blancs. Eh bien les Noirs, finalement, avaient été tellement écrasés, c'est qu'à ce moment-là, ils ne voulaient même pas y croire. Ils ne pouvaient pas croire qu'ils étaient des affranchis. Alors il disait, ben non, moi je retourne vers mon maître parce que c'est ma vie, c'est comme cela. Et vous savez, quelquefois, il y a beaucoup d'attitudes, même chez les chrétiens, alors qu'ils sont libérés, qu'ils croient qu'ils sont encore dans l'esclavage, et ils y restent. Parce que tout est une question de foi. Il fallait que l'esclave noir croie qu'il y avait un édit qui venait de Washington et qui proclamait qu'ils étaient des hommes libres. Mais ils refusaient d'y croire. Et quelquefois, dans le peuple de Dieu, eh bien c'est ce qui se passe. Des hommes et des femmes, affranchis par Jésus-Christ, refusent de croire qu'ils sont des hommes et des femmes libérés. Et ça, faut que vous le croyez, frères et sœurs. Ça, c'est important de le croire, parce que tout est une question de foi. Un christianisme qui ne confesse Jésus libérateur, c'est un christianisme sans vie et impuissant. Et c'est un petit peu tous les vestiges de la religion, des grandes religions que nous avons autour de nous. Souvent, les gens confessent en disant « Mais je vais à tel office ou tel culte, mais je sens qu'il me manque la vie. » Ah oui, c'est sans puissance. Et la vie en Christ, c'est une vie de puissance. Une vie de libération, une vie qui nous donne au moins de respirer et d'être heureux de vivre, Parce que comment voulez-vous être le sel de la terre et communiquer la faim et la soif aux autres si vous-même, eh bien, vous avez seulement dans votre aspect extérieur ou tout simplement à l'intérieur, eh bien, là, visiblement, une présentation qui ne proclame pas votre liberté. Seule la foi en Jésus-Christ est capable de nous libérer. C'est ainsi que nous continuons dans cette petite phrase où il nous est dit « Christ nous a affranchis, mais pour la liberté ». C'est important, hein, pour la liberté. Nous allons voir ce que ça signifie, la liberté. Le but de Dieu, en nous libérant, est de nous donner l'épanouissement. Être chrétien, c'est être heureux. Être chrétien, c'est être joyeux. Être chrétien, c'est être épanoui. C'est d'être rayonnant. Moi, je ne sais pas comment vous le concevez. Je pense que je ne suis pas trop triste au milieu de vous. Non, vous n'osez pas me répondre. Eh, vous avez raison, hein, vous pouvez me le dire. Alors, moi, je pense que c'est comme ça que je conçois les choses. Et vous savez que Jésus, quand il nous donne cette belle image de lui-même dans la parabole du bon berger, il dit que il est venu, le bon berger donne sa vie pour ses brebis, et il est ajouté, afin qu'elles aient la vie en abondance. Et ça, moi, j'aime ça. En abondance. Dieu veut nous amener à une plénitude de vie. De passer de cet état d'existence à une dimension de vie libre. Il nous appartient ensuite de garder et de développer cette liberté chèrement acquise. Et on sait que Jésus l'a payé à un prix très cher, la liberté. C'est-à-dire que c'est tout son sacrifice. C'est la doctrine de la rédemption. À la conversion, un processus d'affranchissement progressif s'est amorcé dans notre vie. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Mais à moins d'être Paul sur le chemin de Damas, bien qu'il ait passé aussi certainement des moments où il a fallu que, comme l'argile du potier, ça se décante, mais on s'aperçoit que c'est pas parce que, bon, on a confessé Jésus, on s'est repenti, que tous nos problèmes sont finis. Ça, c'est une illusion. Je pense qu'il faut être plus raisonnable comme cela et puis dire comme les choses doivent être dites. Et à partir du moment où nous avons laissé Jésus rentrer dans notre cœur, il y a là, eh bien, je dirais un phénomène progressif qui va s'enclencher et qui va de pair avec ce que la Bible appelle la sanctification, la régénération du croyant. Mais pour le diable, ça c'est le côté de Dieu, mais pour le diable, un chrétien sauvé est toujours une cuisante défaite. Quand des gens viennent à l'évangile et se donnent à Jésus, c'est une défaite pour le diable. Il a perdu. Il a perdu une partie. Mais c'est pas pour ça qu'il s'avoue vaincu. Mais je dis qu'un chrétien sauvé, mieux encore, un chrétien libéré est inconcevable pour l'adversaire. Parce qu'après nous avoir donné la grâce de Dieu, Dieu veut que nous soyons libérés. Salut, c'est une chose, mais rentrer après dans une autre dimension, c'est encore autre chose. Et ça, c'est inconcevable. C'est pour ça qu'il y a des combats, il y a des luttes, il y a des avancées, et puis il y a des reculades chez l'enfant de Dieu. Il y a des choses où nous prenons le parti de dire, eh bien Seigneur, maintenant, à partir d'aujourd'hui, ça sera comme ça. Et puis, la réalité, on s'aperçoit que c'est pas aussi facile. On prend des bonnes résolutions, on se dit, mais Seigneur, on entend un message qui nous enflamme un petit peu et qui nous dit maintenant, à partir de là, terminé, ça va aller. Et puis, on se retrouve confronté avec le monde, la vie, parce que un chrétien ne s'écarte pas du monde, hein, dans ce sens que je veux dire. Il a une vie sociale, une vie familiale, une vie conjugale, une vie relationnelle. Et c'est là où Dieu le veut, d'ailleurs. Et puis, on est confronté avec toutes sortes de choses. Alors, à ce moment-là, eh bien, le but de l'adversaire, c'est de tout faire pour nous ramener en arrière. Et ramener en arrière, c'est tout simplement nous ramener dans un état de rétrogradage, dans un état de perte de vitesse au niveau spirituel, c'est-à-dire nous rendre esclaves à nouveau. Et n'oubliez pas qu'il est le tentateur et qu'il est le séducteur. Je vais vous montrer qu'il y a une grande différence entre libre, être libre et être esclave, ou être vivant, être mort spirituellement. Vous voulez que je vous raconte une petite histoire ? Écoutez bien. Voilà. C'était un croyant, chrétien, qui est demandé par son maître pour aller à la chasse. Alors ils partent. Alors le maître, c'est le chasseur, et l'esclave, c'est le chien. Vous allez voir, vous allez comprendre. Mais chemin faisant, le maître ne cesse de se moquer de la foi de son serviteur et de l'humilier. Et de ricaner, de le mettre dans une condition, parce que il est chrétien, tout simplement. Du genre, en lui disant ceci pour le mortifier, tu es croyant et tu dis toujours que Satan t'attaque sans relâche. Mais moi, qui ne croit en rien, eh bien, je vois qu'il me laisse tranquille, ton diable. Je vois qu'il me laisse tranquille. Alors c'est vrai que le pauvre croyant, esclave par surcroît, eh bien, ne savait que répondre. Et il ne savait pas quoi faire, parce que bon, c'était son maître qui lui disait, mais toi, t'es toujours en train de souffrir parce que tu te bats pour ta foi, etc., etc. Mais moi, je suis tranquille. Et voilà qu'à un moment donné, à un détour de chemin, il y a un vol de canards qui passe. Et aussitôt, le maître épaule son fusil et il tire. Et il y a plusieurs canards qui tombent. Hein, c'est un bon viseur. Il avait dû s'entraîner plusieurs fois. Alors aussitôt, il ordonne à son serviteur d'aller ramasser les proies au plus vite. Et en lui criant, parce que le serviteur est déjà parti devant, en lui criant, eh bien, prends les canards encore vivants, de peur qu'ils ne s'enfuient, et puis laisse les morts, on les aura toujours. Vous avez compris ? Attendez, c'est pas fini. Hein ? Tu cours, tu prends les vivants, enfin ceux qui sont blessés, et puis les autres, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et là, c'est à ce moment-là que l'esclave va avoir une pensée lumineuse. Il va avoir la réponse, parce qu'il était perturbé, on était toujours en train de lui dire, mais regarde ta vie, regarde ceci et cela. Et la réponse va surgir dans son esprit, et il va répondre à son maître ceci. « Ah, je sais pourquoi maintenant le diable s'attaque constamment à moi et jamais à vous. » Il lui dit « J'ai tout compris. » Et il va expliquer, il va dire « Mais par votre ordre, vous venez de me démontrer comment le diable procède avec les hommes. Vite, prenons les hommes vivants, car les autres, les morts spirituels, on les aura de toute façon. » Et ça, ça fait partie de la stratégie diabolique. Et de faire croire que finalement, à ceux qui sont morts, ils sont vivants. Mais les vrais vivants, c'est autre chose. Parce que je crois que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui sont passés par la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, sont vraiment les vivants de ce monde. Et Dieu n'est pas le Dieu des morts, comme il le dira, mais le Dieu des vivants. Et l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Il vit à travers sa parole, il vit à travers son Saint-Esprit, il vit à travers les uns et les autres. Alors, moralité, être vivant ou mort, voilà la différence. Hein. C'était une petite anecdote que je voulais placer devant vous pour vous montrer que, eh bien, c'est ça, finalement. C'est ça, toute la stratégie de la vie, de la liberté, de la mort et de la vie. Malheureusement, parce qu'il y a aussi ce problème qui existe dans les églises, c'est que malheureusement, l'enfant de Dieu lié s'en prendra à Dieu et lui reprochera la médiocrité de sa vie. Et j'ai remarqué que les gens qui ne sont pas libres, les enfants de Dieu qui ne sont pas libres, sont des gens qui ont un régime spirituel en deçà. Alors c'est peut-être justement par mauvaise compréhension de leur position en Christ, n'ayant pas saisi pourquoi Dieu les a libérés, ce qu'ils sont aujourd'hui en tant que non plus des esclaves mais des hommes libres, et qui amène finalement les enfants de Dieu à se plaindre, qui les amène à geindre, qui les amène à trouver tout mauvais et à s'en prendre même à Dieu. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Il y a un homme qui n'a jamais voulu tomber dans l'esclavage. C'est Job, parce que lui, il en est arrivé de toutes les façons. Mais il nous est dit à un moment donné qu'il ne pécha ni par ce qu'il disait, ni au fond de son cœur, malgré tous les problèmes qu'il a pu avoir. Et frères et sœurs, je crois qu'une des raisons, peut-être, où il y a du mécontentement, où il y a de l'insatisfaction dans le peuple de Dieu, c'est que vous n'avez pas compris que vous êtes des hommes et des femmes libres et que vous ne saisissez pas la prérogative qui est la vôtre. Parce qu'à partir du moment où on comprend que nous sommes des affranchis, des hommes libres, mais nous sommes heureux. Et c'est le Seigneur qui va nous comprendre, qui va nous conduire et qui va nous diriger. Dieu nous a promis la liberté à qui veut bien la recevoir. Et cette liberté, elle vous est proposée encore ce matin. Ce n'est pas une liberté humaine, c'est une liberté spirituelle. Par défaut, eh bien, en tous les cas, tout ce qui peut se passer à côté n'est pas imputable à Dieu puisqu'il est venu nous dire que nous sommes finalement libérés. Et puis nous avons un deuxième ennemi. Il y a celui qui est invisible, qui tire les ficelles, c'est un formidable marionnettisme et qui se joue de nous. Et il se jouera de nous tant que nous ne croirons pas suffisamment au nouvel état dans lequel nous sommes. Et le deuxième ennemi, eh bien, la Bible en parle, c'est le vieil homme irrégénéré, c'est le moi, c'est l'ego. C'est le caractère humain qui se rebelle pour ses droits de faire ce qui lui plaît et de faire ce qu'il veut. Nous avons un texte révélateur, c'est dans l'Épître aux Romains, je le lis simplement pour la mémoire. Dans Romains chapitre 8, au verset 2, il est dit ceci, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Voyons, on retrouve les mêmes termes. Nous sommes sous la loi de vie de Jésus-Christ aujourd'hui. Alors, cette loi m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et un peu plus loin, au verset 5, jusqu'au verset 8, il est dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Et quand on est conscient d'être libre, on vit dans la paix et on vit pleinement. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Frères et sœurs, je vous en supplie, saisissez que vous êtes des hommes et des femmes libres. Moi, je vous donne ces éléments de réflexion, mais je compte particulièrement maintenant pour que Dieu, par son esprit, vous convainc qu'il y ait une autre dimension à atteindre. Je l'ai dit dernièrement dans une réunion de prière, nous sommes un petit peu comme tous ces gens qui avançons à la conquête de nouveaux continents et qui sont là à découvrir un nouvel espace et qui restent sur le rivage, qui ne veulent pas aller plus loin parce qu'ils se disent « Eh bien, nous ne pouvons pas nous enfoncer dans l'arrière-pays. » Alors ils restent comme ça, à végéter sur le rivage. Ils ne vont pas plus loin. Mais si vous vous souvenez de Vasco de Gama ou Christophe Colomb, ils se sont pas contentés de rester sur le rivage, ils ont été exploiter les richesses à l'intérieur. Et Dieu nous appelle à aller exploiter les richesses qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est par la foi. Uniquement. Christ nous a affranchis. Alors, devons-nous prendre nos responsabilités d'homme libre et demeurer dans l'équilibre. Et ce sera la dernière pensée que je partage avec vous. L'équilibre. Moi, je veux être un prédicateur d'équilibre. Je ne veux pas pousser dans tous les sens. Je ne veux pas avoir une doctrine qui amène quelquefois à montrer une telle vitrine à l'extérieur de fanatisme ou d'intégrisme. L'équilibre Jésus est un modèle d'équilibre. Modèle d'équilibre. Et nous devons nous en inspirer. Parce qu'en allant dans un sens ou dans un autre, nous gâchons le témoignage. Nous défigurons le christianisme que nous professons. Alors, nous sommes des hommes libres, mais notre liberté, elle doit être tenue dans l'équilibre. Attention aux libertés extrémistes. Et il y en a toujours eu, et il y en a encore. Et aussi dans nos mouvements, dans nos milieux. Libertés extrémistes, souvenez-vous de cela. Ou alors, le contraire, les garde-fous poussés à l'excès. Ou alors, plus personne respire, plus personne ne vit, plus personne ne regarde, plus personne n'écoute. Alors à ce moment-là, vaut mieux se renfermer entre quatre murs et vous prenez tout simplement, là, vous rentrez dans les ordres. Non, Jésus nous a demandé d'être des hommes libres, mais d'être au milieu du monde dans lequel il nous a placés pour être ses témoins, pour être ses ambassadeurs, mais ambassadeurs d'une vie. Une vie pleine de dynamisme, pleine d'épanouissement. Une vie qui proclame que Jésus est véritablement vivant et ressuscité. Alors, des libertés extrêmes aux garde-fous poussés à l'excès, les deux positions sont des atteintes destructrices à la vraie liberté. Et on le voit. Il suffit de regarder un petit peu autour de nous. Certains poussent dans un sens et l'autre dans les autres. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donne quelquefois de l'abjection ou de la réjection des gens quand on a cette présentation ou ce genre de choses. Et ça existe. Il y a des doctrines qui passent dans nos églises. Il y a toutes sortes de choses dans les milieux chrétiens. Et je peux vous dire qu'on n'est pas prêt de conquérir les gens. Parce que, quelquefois, ça n'incite pas les gens à venir à Jésus. Mais pourtant, la parole de Dieu nous dit, pour nous garder dans l'équilibre, « Vous avez été affranchis, nous dit l'apôtre Paul, ne faites pas de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. » Et certains en ont trouvé un prétexte pour dire « Ah bien maintenant, Christ nous a affranchis, nous pouvons tout faire. » Et en faisant tout, il casse tout. C'est un scandale. Et puis d'autres, de l'autre côté, c'est quand même l'apôtre Paul qui dit cela, mais il le dit aux Galates, parce que c'était des gens qui avaient commencé par l'esprit, mais qui étaient redevenus finalement esclaves de la lettre, parce que derrière Paul, il y avait ce que l'on appelle les judaïsants qui passaient en disant « Oui, vous êtes sauvés en Christ, mais si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas cela, si vous ne vous comportez pas de cette manière, vous n'êtes pas sauvés. » C'était les judaïsants. Et tout le travail de Paul, qui était un travail d'affranchissement et de libération, eh bien, tombé par terre. Et Paul est obligé d'écrire aux Galates cette parole: vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Et il dira même: vous êtes déchus de la grâce. Quel terrible réquisitoire! C'est terrible, une parole pareille. Et je crois que pour nous, en tant que chrétiens, il faut que nous nous cantonnions dans l'équilibre. Et Dieu va nous donner l'équilibre. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, c'est un esprit d'équilibre. Nous n'y gagnerons rien à aller dans un sens ou dans un autre. Nous ne pouvons que discréditer l'Évangile et notre confession de foi. La liberté qui fait peur ou la liberté qui omnubile. Et il y a parfois des enfants de Dieu qui n'osent pas bouger et qui ne bougeront jamais, enfin avec la grâce de Dieu seulement, parce qu'ils ont peur. Vous savez, ce n'est pas des conséquences du péché que nous devons avoir peur. C'est du péché lui-même. Et quelquefois, nous avons beaucoup plus peur de l'homme que de Dieu lui-même. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui veut nous faire peur. Il veut que nous ayons une relation avec lui. De père à fils et de fils à père, dans la liberté, dans l'équilibre. Et où la liberté qui omnibule, c'est-à-dire c'est la liberté qui va n'importe comment et qui va dans n'importe quelle direction. C'est les grands dangers du christianisme, c'est le libéralisme et le légalisme. C'est les deux. Alors bien sûr, je sais qu'il y a eu des enseignements qui ont été donnés de ce côté-là. Mais je crois que l'enseignement qui sied à l'Évangile, c'est un enseignement qui reste dans la ligne médiane et au milieu. Enfin, je terminerai par un avertissement de raison. Quand il est dit ceci, Christ vous a affranchi pour la liberté, avec cette recommandation, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Nous sommes des hommes libres et ne retournons pas en arrière. Alors comment retourner en arrière quand on est chrétien? Bon, on peut le reconnaître. On peut retourner en arrière. C'était le problème des Galates, ils avaient reçu le plein évangile, ils avaient reçu la vie de l'esprit à un moment donné parce qu'ils avaient entendu autre chose. Il y avait toutes sortes de courants qui passaient. Et Paul allait d'une église à une autre, hein, il n'était pas là pour veiller au troupeau continuellement, après il mettait des anciens et c'était eux qui prenaient le relais. Mais il y avait toutes sortes de gens qui passaient. Et moi je vous dis que, frères et sœurs, nous avons besoin de rester sur la parole de Dieu, nous avons besoin de rester fidèles au Seigneur. Nous avons besoin de rester fidèles là où il y a un enseignement d'équilibre qui est donné, et pas gratter. Excusez-moi, pas fouiller de droite et de gauche. Il y a toutes sortes de littératures, il y a des bonnes littératures qui édifient, qui font du bien. Il y a de bons commentaires bibliques. Mais quelquefois, il y a une démangeaison de vouloir, eh bien là, avoir un peu plus de ceci, un peu plus de cela, pour être plus sain, pour être plus performant. Mes frères et sœurs, c'est pas ça ce qui convient. C'est de rester dépendant du Seigneur et de son esprit qui nous conduit. Ça, c'est important. La pensée des autres, si elle est bonne et si elle est conforme à la parole de Dieu, je dis d'accord. Si elle est dans l'esprit de Dieu, d'accord. Mais autrement, nous avons tellement vu de gens partir de droite et de gauche. Ils se donneront une foule de docteurs ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous savez, Dieu ne nous a pas appelés à l'agréable. Il nous a appelés à assumer tout simplement notre vie. Et notre plaisir, nous le trouverons en lui. Et non pas dans des doctrines, non pas dans des choses qui sont poussées dans un sens ou dans un autre. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Pour le temps où nous sommes sur cette terre, notre libération restera conditionnée à notre affranchissement, à notre foi et à notre dépendance de Christ et de sa parole et de son esprit. Le livre des Juges, un vieux livre de la Bible, témoigne de ce qu'est la liberté confisquée. Parce que les Hébreux avaient eu la liberté et ils se sont fait confisquer leur liberté. Comme il y a des chrétiens qui ont la liberté et qui se sont fait confisquer leur liberté, voire même des églises. Tout ça parce que les générations qui n'avaient pas connu Moïse et les anciens après Josué, etc., ont regardé tout autour d'elles. Et ils se sont dit, ah ben c'est pas mal ce qu'ils font autour. Et il y a eu à ce moment-là un mélange au niveau des conceptions religieuses, de foi. Ils se sont égarés dans toutes sortes de choses. Eh bien Dieu leur a dit maintenant, puisque vous ne voulez pas la liberté que je vous donne. Vous qui pensez et prétendez l'avoir en imitant les nations alentour, les pays de Canaan, eh bien on a vu qu'Israël est tombé dans l'asservissement des Madianites, des Philistins, des Syriens, etc., et pendant des siècles. C'est pour ça que ce livre porte le nom des Juges, pour la bonne raison que Dieu, quand le peuple d'Israël criait et prenait conscience qu'il était esclave, alors à ce moment-là, Dieu envoyait un Jephté, il envoyait un Gédéon, et puis... voire même Samson, qui n'était pas toujours très recommandable quand on connaît son histoire, mais néanmoins il délivrait le peuple. Mais faut-il retourner en arrière pour faire cette expérience tout à nouveau. Écoutons son conseil qui nous vient de la bouche même de Jésus quand il dit ceci. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Or, les tentations sont nombreuses. » Pas vrai ? Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais c'est quelquefois assez puissant. Hein, voilà. « Afin que vous ne tombiez pas en tentation, et moi je paraphrase, je dis, et que vous perdiez votre liberté. » Frères et sœurs, c'est formidable d'avoir la liberté. Ouais. Vous savez que des peuples, à commencer par le nôtre, quand il y a eu une botte étrangère sur notre territoire, on a quand même réagi, hein. C'est ce qu'on appelait la résistance. Eh bien, pourquoi ne résisterions-nous pas quand on sent que notre liberté est confisquée ? On ne bouge pas là, quand c'est spirituel et moral. On ne bouge pas. Mais quand il s'agit d'une liberté nationale, alors là, on réagit. La conclusion, je termine, que je nommerai les résultats de notre affranchissement. Nous sommes libérés pour vivre en paix, en conscience et épanouis. Quand je me suis converti il y a des années de cela, maintenant ça fait quelques... J'ai pris des cheveux blancs, ça se voit pas beaucoup, mais ça... Il y a une chose que j'ai compris, venant d'une religion qui m'avait asservi. Il m'a fallu des mois, voire des années, pour me libérer de certaines choses que j'avais dans ma conscience et que je n'arrivais pas à me libérer. Et je peux dire, Christ m'a affranchi. J'avais reçu une doctrine qui était une doctrine pseudo-chrétienne. Et le jour où j'ai véritablement découvert la grâce et la vie en Jésus-Christ, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain, mais petit à petit, le Seigneur m'en a libéré. Maintenant, je n'ai pas envie de retourner en arrière. Et frères et sœurs qui vivaient encore avec des tourments de conscience, réglez le problème devant le Seigneur. On n'est pas là, ni le Seigneur, ni nous-mêmes, pour vous condamner, puisque il est dit que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature et qu'il n'y a plus de condamnation. Mais nous sommes amenés à aller plus loin. Donc, notre paix en conscience est épanouie. Je suis toujours troublé des chrétiens qui sont jamais en paix, qui sont toujours en train de repasser les choses. Quelle est la volonté de Dieu ? Et puis, est-ce que le Seigneur veut ceci ? Est-ce que le Seigneur veut cela ? Et d'être toujours en train de s'introspecter et de dire, mais Seigneur, je comprends pas, je comprends plus. Un petit peu plus de foi, mes frères et sœurs, et un peu plus d'abandon de votre vie entre les mains du Seigneur. Ouais. Et vous verrez comment ça va aller. Mais quelquefois, c'est notre intellect qui domine nos sentiments, notre affect qui domine finalement, eh bien, notre foi. Alors, en paix, épanouie et en conscience. Nous sommes également libérés pour servir sans crainte et efficacement. C'est le livre de Luc, hein, l'évangile de Luc, qui proclame « Au moment de la naissance de Jésus, Dieu nous a envoyé un sauveur pour que nous servions le Seigneur sans crainte, en face de nos ennemis. » Sans crainte. Alors, si vous avez la peur et la crainte dans votre cœur, eh bien, venez vers le Seigneur et parlez-lui en. Et puis, dernière chose, nous sommes libérés pour glorifier Dieu et toute véritable liberté s'accompagne de joie, de louange et de sincère reconnaissance. C'est dans cela que nous avons commencé ce matin ce culte et c'est en cela que nous allons poursuivre. En disant, Seigneur, je te bénis, je loue ton nom. Tu es merveilleux, Seigneur, parce que tu as fait de moi un être libre. Je suis libéré. Et nous allons donner envie aux autres de connaître ce véritable christianisme et cette véritable liberté. Et de là, on comprend cette parole de Jésus sur laquelle je termine. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Saisissez l'instant dans lequel nous sommes et proclamez votre affranchissement en Jésus. Saisissez-le par la foi et dehors nos craintes et nos peurs. Le Seigneur est là et il est vivant. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde et il veut que nous gardions notre liberté en Christ. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous te remercions, Seigneur, parce que, en effet, Père éternel, ta parole peut quelquefois embarrasser, elle peut déranger. C'est vrai, Seigneur, mais moi je veux me rendre à ta parole parce qu'en effet, Seigneur, elle est bonne pour moi. Elle est saine, elle est sainte. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, devant cette situation qui parcourt l'histoire des hommes et l'histoire de la Bible, à travers, Seigneur, là, le peuple hébreu en Égypte, à travers son affranchissement, à travers sa libération, ses retours en arrière, et tout à nouveau, les délivrances que tu lui as procurées, Seigneur, dans certains temps forts de son histoire, Eh bien, c'est aussi l'histoire de chacun, c'est l'histoire des hommes. C'est vrai, Seigneur, tu es venu nous chercher dans notre Égypte à nous. Alors que nous étions malheureux, que nous étions pris dans le péché, que nous étions pris dans les illusions, en pensant que finalement, eh bien, nous étions libres. Mais Seigneur, tu t'es révélé à notre vie et un jour tu as fait le flash, Père éternel. Et là, nous avons compris à ta lumière que finalement, il n'y avait qu'un qui pouvait vraiment faire tomber nos chaînes, nos liens et nous donner la vraie vie. Seigneur, je te prie pour les églises, je te prie pour ton peuple, je te prie pour Redon, je te prie pour Saint-Nazaire. Et je te demande d'envoyer un souffle nouveau, Seigneur, qui nous amène, en effet, non pas à des libertés extrêmes ou à des garde-fous, Seigneur, qui nous rend aveugles, mais de nous donner vraiment, Seigneur, de nous camper en Jésus-Christ et de vivre en Christ, parce que si Christ est en moi, je suis libre. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Visite mes frères et mes sœurs qui, peut-être, courbent le dos, qui, Seigneur, eh bien, pendant des années, ont été sous une influence, Seigneur, où ils n'ont pas osé lever les yeux, Seigneur, vers le ciel. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, maintenant, tu fais tomber les chaînes, tu fais tomber les liens, tu nous donnes, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos consciences, eh bien, d'être des hommes libres. Puisque ta parole le proclame, et nous voulons le vivre, et nous voulons le proclamer autour de nous. Eh bien, Christ nous a affranchis pour la liberté. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Amen. Amen.